Bonjour à tous et bienvenue. Vous écoutez Blooming You, le podcast qui vous propose toutes les connaissances utiles à une vie bonne et heureuse. Nous avons une ambition, celle de vous inspirer, de vous aider à mieux vous connaître et surtout de vous faire du bien. Notre parti pris est de partager avec vous des savoirs ayant un impact positif sur l'homme et le vivant. Je suis Amal Dadol, votre hôte, et j'espère que ce contenu fera sens pour vous. Aujourd'hui, nous rencontrons l'auteur du livre « La posture juste » paru aux éditions L'Iconoclaste, le docteur Thierry Johnson, un chirurgien devenu psychothérapeute. Dans ce podcast, Thierry Johnson nous explique comment il a quitté la chirurgie il y a 20 ans pour se consacrer exclusivement aux médecines intégratives, comment repérer nos comportements névrotiques, comment la psychologie et la spiritualité sont en fait imbriquées et comment trouver la posture juste. Alors, bonjour Thierry Johnson.
Bonjour, bonjour.
Alors, vous êtes chirurgien?
Non.
Vous avez été chirurgien, mais vous avez arrêté d'exercer la chirurgie en 98. C'est ce que j'ai lu sur votre site internet.
Oui, exactement. J'ai fait chirurgien pendant 13 ans jusqu'en 1998.
Oui. Et pourquoi vous avez arrêté la profession chirurgien? Et comment est né votre intérêt pour les médecines alternatives chinoises ou encore ayurvédiques?
Oh, en fait, c'est une longue histoire, hein, mais pour faire très court, au moment où j'ai arrêté, c'était juste de la survie. Je n'ai pas réfléchi. Le jour où j'ai pris des fonctions supérieures dans l'hôpital universitaire où je travaillais, j'ai entendu une voix, ma voix, mais c'était tellement clair sous les os de mon crâne, là, qui disait « si tu restes ici, tu vas mourir ». Donc, j'ai quitté. J'ai écrit une lettre de démission et je suis parti. On m'a dit « quel courage ». Je ne pense pas que j'ai eu du courage pour faire ça. C'était vraiment une sorte d'instinct de survie. Après, il a fallu le courage d'assumer tout ça. Mais voilà, je suis très heureux, plus de 20 ans plus tard, de voir que ça m'a libéré, ça m'a permis d'explorer beaucoup de choses qui ne m'étaient pas permis d'explorer lorsque je pratiquais la chirurgie, pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'étais le nez sur le guidon, occupé de nombreuses heures par jour à soit consulter ou opérer, mais aussi à elle par ma carrière. Donc j'étais un homme très ambitieux, donc j'avais pas vraiment plus le temps pour beaucoup d'autres choses, et pourtant dans mon enfance j'avais une forme de curiosité, d'ouverture sur le monde, sur l'être humain. Un professeur à l'école m'avait dit que je devrais devenir anthropologue ou ethnologue, et parce que je pense que j'étais passionné, fasciné par l'être humain, aussi par l'histoire ancienne, en particulier celle de l'Égypte ancienne. Et donc tout ça fait que à l'âge de 37-38 ans, j'étais très loin de tout ça, et quitter la chirurgie était le moyen d'y revenir. Alors naturellement, ça ne s'est pas fait tout de suite, parce que d'abord je suis revenu très fort vers l'Égypte, qui m'inspire depuis tout petit d'une façon intuitive, symbolique, par osmose. C'est pas du tout intellectuel, mais l'Égypte était tellement reliée à la nature, la civilisation pharaonique était tellement reliée à la nature, que je comprends aujourd'hui à quel point elle m'a parlé et qu'elle m'a façonné à travers son symbolisme, à travers ce qu'elle a fait perdurer à travers les millénaires. Mais en fait, après être revenu très proche de l'Égypte, mon intérêt pour l'être humain, ma façon aussi de l'aborder en essayant de l'aider, parce que je faisais ça depuis tout petit, c'était ma façon de prendre ma place ou d'occuper une place dans le monde. Et du coup, inévitablement, je me suis réouvert aussi aux autres façons de soigner. Par intérêt affectif quelque part, enfin en résonance avec cette façon de regarder l'être humain et le monde, mais aussi par intérêt intellectuel, parce que c'est fascinant quand on vient d'un milieu où on était formaté à regarder l'être humain comme une machine et où on l'a traité comme une machine, car un chirurgien, même s'il peut mettre beaucoup d'empathie, d'humanité dans son action, et il agit quand même au niveau mécanique de la chose, au niveau très matériel de la chose. Et quand on a été formaté à C'est tout un monde qui s'ouvre quand on s'intéresse à d'autres façons de soigner qui n'ont pas été dans l'exclusive, qui ne se sont pas intéressés qu'à la composante matérielle de la personne humaine, mais qui ont gardé toute sa composante émotionnelle, psychologique, voire symbolique. Il y a une vraie médecine du sens dans ces médecines traditionnelles, non conventionnelles, et c'est une médecine du sens qui, dans la médecine que je pratiquais, était même diabolisée. C'était même pas qu'elle était niée, elle était diabolisée. On parlait de l'effet placebo. Et on disait, ah ben oui, mais imaginez que ce médicament a de l'action, peut avoir une action bénéfique. Il faut absolument, dans les équations et les études scientifiques, s'assurer que c'est pas ça qui agit, que c'est bien la molécule. Donc on passait son temps à traquer l'effet placebo, alors que il n'y a pas de honte à avoir un effet placebo. C'est beau, il est même souhaitable. Et donc, le rôle du soignant est fondamental dans la manière dont il va prescrire, par ailleurs, des remèdes qui peuvent avoir une action au niveau matériel. Mais on ne peut pas faire l'économie de l'indivisibilité de l'être humain, de l'indivisibilité de l'individu. Et il faut agir en entrant par toutes les portes. Voilà.
Alors, Thierry, dans votre livre, vous partez du postulat que nous sommes tous des névrosés qui s'ignorent. Vous avez identifié, cinq types de névrose.
Oui, en fait, c'est pas moi qui ai identifié ça. Moi, j'ai été, on peut dire, ébloui par le travail qu'ont fait des hommes comme Willem Reich, Alexander Lowen, John Pierakos, qui est un travail d'ailleurs auquel on n'a pas rendu suffisamment hommage dans la francophonie, en particulier en France, puisqu'il a été combattu par les psychanalystes. Et en fait, je pense que tout mouvement de pensée, enfin, tout courant de pensée, tout mouvement thérapeutique en particulier, est le résultat d'une époque, est le produit d'une époque, et la psychanalyse est vraiment le produit d'une époque où on était enfermé dans le mental. Et donc, quand Freud a voulu faire de son approche de la psyché humaine une science, ben, il l'a fait de façon très analytique, très mentale. Et un de ses élèves a voulu lui montrer que, en fait, on ne pouvait pas faire l'économie du corps et que toute la vie psychique était vécue dans le corps. Et ça, c'est Willem Reich. Et comme je le dis, il a été très combattu. Et puis, comme c'était un homme qui avait des grandes intuitions, on lui doit beaucoup. Il a participé très grandement à la contre-culture américaine qui a amené à la libération sexuelle, par exemple, à la libération des corps. Mais en attendant, il a été combattu et ses intuitions l'avaient mené à comprendre que tout était énergétique. Et il avait même échafaudé une théorie parlant d'une énergie universelle qu'il appelait l'orgone. À la même époque, Tesla et d'autres gens, enfin, avaient aussi émis des idées par rapport à cette énergie universelle. Et ce qui est fascinant, c'est parce qu'on l'a traité de dingue et puis on l'a accusé de plein de choses. Toujours est-il que c'est donc pas moi qui ai inventé ces névroses, qui ai compris ça, c'est vraiment Willem Reich, 1930, il écrit l'analyse caractérielle. Ça a été repris par beaucoup de gens qui citent rarement Reich, et c'est très dommage, et moi je veux lui rendre hommage. Maintenant, quelles sont ces névroses? D'abord, définissons ce qu'est une névrose. Et la névrose, dans ce vocabulaire-là, elle désigne un processus de comportements qui sont mis en place pour éviter d'avoir à revivre ce qui nous faisait peur ou ce qui risquait de nous faire souffrir ou nous mettre en danger. Et on met en place un comportement et de façon incroyable, c'est ce comportement qui finit par recréer ce que nous redoutions. Et ce phénomène névrotique a sans doute une raison d'être qui c'est de nous permettre d'un jour comprendre que notre vision du monde est erronée, que notre perception duelle de la réalité et qui croit que nous sommes séparés des autres est erronée, et que donc la peur que nous ressentons parce que nous nous sentons séparés des autres et parce que nous avons l'impression qu'il pourrait y avoir un danger, eh bien, n'a pas lieu d'être. Et quand on a compris que cette peur n'a pas lieu d'être, alors on peut revenir dans une forme d'unité avec les autres et tous les autres, le monde entier. Hein. Et donc, cette névrose, elle a quelque chose de positif, c'est qu'elle est là sur notre chemin pour nous obliger en conscience à dépasser notre croyance erronée d'une dualité du monde et qui nous empêche de voir que nous sommes une chose, interreliée dans toutes ces dimensions. En attendant, Reich a montré, et à sa suite, Alexander Lowen et puis John Pirakos, ils ont montré que à travers les différentes étapes de notre développement, nous avons des expériences qui peuvent être vécues de façon traumatisante, réveiller une peur, parce que associée à une perception de danger pour notre survie, et que durant ces différentes étapes, nous mettons en place progressivement des comportements qui vont, je le disais, malheureusement, recréer ce qui nous faisait peur. Et on va donc réajouter une couche de ces comportements, et à force, ça devient un conditionnement. Mais ces comportements ne sont pas simplement quelque chose de pensé, c'est quelque chose de vécu, d'exprimé à travers une action, à travers le corps en mouvement. Et ce qui met le corps en mouvement, c'est l'émotion. C'est l'émotion et l'énergie qu'elle contient, émovere en latin, ce qui nous met en mouvement. Et donc, Reich a vraiment montré que nous avons des mouvements énergétiques en nous qui induisent des comportements névrotiques, et que tant qu'on n'a pas compris que c'est ces comportements névrotiques qui nous enferment dans la crise, dans la difficulté, dans la souffrance, en plus de séparation, eh bien, nous vivons une vie ordinaire, c'est-à-dire une vie faite de beaucoup, beaucoup de troubles, de chaos et de souffrances. Alors que quand la conscience s'éveille en nous et que nous avons conscience de ces mouvements énergétiques, nous les percevons jusque dans le corps, parce que le corps ne triche pas. On peut très bien dire « je ne suis pas en colère », mais si on a les poings serrés, les mâchoires serrées, et manifestement, notre corps exprime une colère, mais il est contenu. Et donc, le corps ne trichant pas, eh bien, Reich a proposé de passer par le corps pour libérer tout ça, et pas simplement par une analyse intellectuelle. Et alors, le premier, vous disiez, il y a cinq névroses qui sont décrites, la première étant liée à notre peur du contact. C'est la première peur que nous avons eue, c'est ce contact avec le monde qui a été perçu comme potentiellement dangereux. Et le premier comportement que nous avons mis en place, c'est un retrait. C'est la première défense du vivant, c'est le retrait. On parle parfois de fuite, mais j'explique dans la posture juste qu'il est plus juste, pour le coup, de parler de retrait, parce que la fuite, c'est déjà, il faut des jambes pour s'en courir, mais le bébé n'a pas ses jambes. Par contre, il peut se retirer, il peut se couper, schizein, il peut rentrer dans un comportement schizoïde, schizein en grec, hein, coupé. Et donc, il y a là une première défense qui, à force de nous couper du monde, fait que nous ne trouvons jamais notre place dans ce monde et nous sommes de moins en moins en sécurité. C'est bien là la névrose. Et que l'ajustement à apporter, c'est de s'ancrer dans ce monde, de ne pas en avoir peur, même s'il est potentiellement dangereux, qu'il peut générer de l'inconfort, voire de la douleur, mais d'oser s'ancrer dans le monde. La deuxième névrose qui surgit en nous, c'est dès que on est en contact, il y a un lien qui s'établit avec le monde extérieur, avec les autres humains en particulier, avec nos parents, et ce lien est nourrissant. Et nous avons très peur de le perdre. Et la deuxième grande peur que nous avons, c'est la peur de perdre le lien. On parle d'oralité parce que c'est relié justement à la bouche, la nourriture au départ dans l'expérience de l'enfant. Et je rappelle toujours que l'enfant n'a pas de mental pour analyser ses expériences. Donc il est vraiment là. Comment dire, dans la perception immédiate et la réaction immédiate, mais il n'analyse pas et il ne va pas dire j'ai été abandonné, parce qu'on parle de peur d'abandon, mais c'est aussi, je pense, une erreur, parce que c'est déjà du niveau de l'interprétation. C'est une peur de perdre le lien, de sentir ce vide. Et l'ajustement qui va devoir être fait, sans ça on tombe dans la névrose qui fait qu'on veut fusionner avec les autres et puis s'en nourrir, et les autres sont obligés de recouper le lien. Donc on a recréé ce qui nous faisait peur. Mais l'ajustement, ça va être au contraire de se redresser, de se remplir de l'intérieur. Et puis, pour garder ce lien, il y a une troisième névrose qui peut se mettre en place chez nous, c'est le masochisme, c'est-à-dire qu'on s'oublie, on ne dit plus son besoin, on ne dit plus sa limite, on se met dans le désir de l'autre pour ne pas perdre le lien. Et on garde une immense colère contenue, on a une contention, et tout l'ajustement, parce que si on ne se libère pas, si on ne dit pas sa limite, si on ne dit pas son besoin, eh bien, les autres ne nous respecteront jamais, mais nous serons responsables de ça, puisque c'est nous qui ne nous sommes pas exprimés. Donc tout l'ajustement, ça va être au contraire de s'ouvrir, de ne pas se fermer, mais de s'ouvrir, de s'exprimer. Mais il y a une autre névrose qui se met en place aussi, c'est ce qu'on appelle la psychopathie. Et on a parfois un peu peur de ce mot, mais pourtant c'est un mot magnifique qui veut dire souffrance de l'âme. La psychopathie qui fait que chez celui qui n'est pas sûr de sa valeur, quand il veut garder le lien, parfois plutôt que de s'écraser dans son masochisme, il va vouloir dominer la relation par la séduction, voire par le contrôle, la culpabilisation, l'agression. Et c'est un comportement psychopathe. Mais nous l'avons tous, hein. Alors, il y a certaines personnes chez qui ça devient pathologique très fort, et c'est des tueurs en série, etc. Il y a une psychopathie ordinaire que nous avons tous, qu'on ne peut pas nier. Et là, on se décentre complètement. On veut un contrôle sur le monde extérieur. Et là, justement, c'est de rester centré, de dire sa vérité, bien sûr, mais sans vouloir convaincre, sans vouloir combattre. Il suffit de témoigner et de ne pas avoir peur et de rayonner de ce que l'on est. Tout ça, je vous le raconte en très raccourci, ça fait 300 pages dans la posture juste, parce que tout ça se manifeste dans notre sexualité, se manifeste dans notre rapport à l'argent, à la nourriture, dans tous les secteurs de notre vie, dans notre rapport au temps. Et c'est magnifique quand on commence à voir tout ça en soi. On a, dans l'espace de la conscience qui voit ça, on a une capacité de s'ajuster. Et de retrouver cette posture juste. Et dernier ajustement qui sera nécessaire, c'est que par-dessus toutes ces névroses qu'on vient de décrire, eh bien, il y a une cinquième névrose qui s'installe parce qu'on a peur de montrer tout ça. On croit qu'on ne va pas être accepté avec tout ça. Alors on cache tout ça derrière une façade très lisse. On va parler de rigidité, avec une image idéalisée de nous et du monde. On est totalement dans une illusion, mais on est dans une forme d'inauthenticité, de non-spontanéité, et on est tout raide, tout rigide, on n'est pas vivant. Et du coup, de l'ajustement nécessaire sera au contraire de rester fluide, de rester adaptable, de rester spontané, et du coup de rester joyeux, de rester éminemment vivant. La joie étant le symptôme qui nous prouve notre vitalité. Donc voilà, c'est très résumé, hein, mais ça fait un peu le tour du menu.
Alors Thierry, comment on se connecte à cette joie? Comment on sait qu'on est connecté à cette joie?
Ne pense pas qu'on se connecte à la joie. La joie émerge, elle surgit en nous quand on est connecté à la vie et quand on est pleinement vivant. Et puisque vous parlez de connexion, pour être pleinement vivant, il faut être connecté à soi, à tout ce que l'on est, et d'abord à notre corps, le respecter, sentir ses besoins, sentir ses limites, le nourrir correctement du coup, se reposer suffisamment, enfin toutes sortes de choses qui font qu'à un moment donné, on sent une vitalité qui vibre en nous, et ça crée ce sentiment, cette émotion de joie. La joie, vous voyez, ça vient de godere en latin, se réjouir, qui vient de la racine sanscrite yug, yug qui a donné yoga et qui en français a donné joindre, ou le joug qui réunit les deux bœufs qui tirent la charrue. Donc c'est ce qui fait le lien, yug. Godere, c'est se réjouir parce que le lien est fait, tout est réconcilié. La joie, c'est ce qui apparaît quand tout est un, quand toutes les dimensions de l'être sont pleinement en harmonie et respectées, le corps, l'émotion, la pensée qui fait l'individu indivisible. C'est vraiment ce sentiment, on ne peut pas s'y connecter, mais on peut se laisser surprendre par lui et en se disant, waouh, là je suis pleinement vivant. Et j'insiste toujours, puisqu'on parle de la joie, pour dire que il ne faut pas la confondre avec le contentement. parce que le contentement dépend de circonstances extérieures. Je suis content parce qu'il fait beau, je suis content parce que je vais voir des amis, je suis content parce que je pars en vacances. OK, mais si je pars plus en vacances, si je vois pas mes amis ou s'il ne fait pas beau, je suis plus content. La joie n'a rien à voir avec ça. La joie dont je parle ici est une joie sans objet. C'est un état d'être. Et on peut ne pas être content et joyeux en même temps. C'est très curieux parce que ça vient d'un autre endroit. Le contentement vient de la personnalité, vient du moi, de notre ego, hein, de ce moi qui dit je, ego en latin. Et du coup, ben, c'est de l'ordre du mental, des croyances et des attentes du mental. La joie vient d'un autre endroit, elle vient de l'essence de l'être, elle vient de ce noyau tout profond en nous qui est pure vitalité, qui est pure conscience aussi, hein, qui voit tout ça. Et en fait, j'en ai pour preuve que la joie peut cohabiter avec le mécontentement, et voire même la tristesse. C'est qu'il suffit d'aller dans les enterrements, voir, ou soi-même quand on a vécu des moments difficiles à travers un deuil, de voir qu'on peut être très triste, très frustré, très désespéré, voire très en colère aussi, mais on peut être en même temps joyeux. Et c'est toujours très surprenant de voir dans les enterrements comme les gens peuvent être joyeux, parce que tout d'un coup, ils se rappellent que la vie a une fin, on va à l'essentiel, on se retrouve parfois entre cousins ou membres d'une famille qui ne s'est pas vu pendant des années, et on se promet qu'on va se revoir, et puis ça retombe, hein, mais on ne se revoit plus. Mais en même temps, à ce moment-là, il y a quelque chose en nous qui est une joie profonde parce qu'on est reconnecté à la vie à travers l'expérience de la mort. Et pour moi, la mort est la plus belle des choses. Je sais que ça peut paraître obscène de dire ça dans une civilisation qui nie la mort, qui la trouve insupportable et qui ne peut absolument pas l'intégrer dans la vie. Hein. Je n'oppose pas la mort et la vie, j'oppose la mort et l'existence qui font partie de la vie. Et la mort, pour moi, est extraordinairement belle parce que elle vient donner une valeur à l'existence et donc elle donne une valeur à la vie. S'il n'y avait pas de mort, si on avait un temps infini, comme certains rêvent de l'avoir, grâce au transhumanisme et tout ce que vous voulez, eh bien, la vie aurait encore moins de valeur que ce qu'on lui accorde aujourd'hui. On la gâcherait encore plus, on gaspillerait encore plus de temps et d'énergie. C'est parce qu'il y a la mort que tout d'un coup, on se rappelle que la vie a cette valeur, qu'elle est limitée, qu'il faut en faire quelque chose, qu'il faut la goûter pleinement, qu'il faut l'honorer et y participer de façon tant mieux qu'elle existe, tant mieux que la mort soit là, vraiment. Et voilà pour la joie.
Alors, vous affirmez dans votre livre que la psychologie sans la spiritualité est souvent stérile, autant que la spiritualité sans la psychologie est fréquemment inutile.
Oui, je dirais même dangereuse, dans le sens où, en fait, quand on regarde l'histoire de la psychologie occidentale, on a à la fin du 19e siècle Freud et quelques autres qui veulent se réintéresser à la psyché qui avait été vraiment mise de côté dans le sens où on disait qu'elle était du rayon des spiritualités, des religions, de la philosophie, mais que c'était irrationnel et comme on était dans une vision très matérialiste du monde, on voulait dans une science qui s'intéresse à la matière. Mais en fait, la spiritualité est une science qui s'intéresse à l'esprit. Et l'esprit qui habite cette matière, qui forme cette matière, qui inspire cette matière. Et en fait, quand on regarde l'histoire de la psychologie, qu'est-ce qu'on voit? C'est que Freud, je l'ai dit, ben, en fait une psychanalyse très mentale. Il évacue même le corps, il en parle du corps, mais il ne le vit pas. Reich vient lui rappeler qu'il faut vivre le corps, qu'il faut aller chercher en lui les réponses, parce que le corps ne triche pas. Et puis, on a toute une psychologie qui va se développer sous trois grands courants. La psychanalyse qui nous dit qu'il y a des forces sombres qui risquent d'anéantir l'être humain et qu'il faut essayer quand même de les voir, mais qu'elles agissent dans l'ombre, dans cet inconscient. Et puis, il y a, après la Seconde Guerre mondiale, un courant que l'on a appelé avant même, il y a déjà ce courant cognitivo-comportementaliste qui vient dire que l'être humain n'est pas le résultat, comme le disaient les psychanalystes, de forces sombres et de pulsions non conscientisées. C'est d'abord un être qui est le résultat d'apprentissage et de conditionnement. Et les cognitivo-comportementalistes nous disent qu'on peut se déconditionner, ce qui est en soi une bonne nouvelle et ce qui est en partie vrai. Mais il y a eu un combat entre les psychanalystes et les cognitivo-comportementalistes qui est un combat triste, parce que tous les deux parlaient d'une partie de la vérité. Et donc, plutôt que de s'opposer, ils auraient dû regarder que les deux pouvaient être explorés. Bien sûr, les forces sombres et non conscientes qui sont en nous, mais aussi tous nos conditionnements et tout le résultat de nos croyances et de nos apprentissages. Mais il y a un troisième courant qui est né après la Seconde Guerre mondiale, qui est la psychologie humaniste. Parce qu'après toutes les horreurs de Seconde Guerre mondiale, certains, notamment sous l'inspiration de Karl Jaspers, ce philosophe, qui nous disait qu'il y avait un potentiel en l'être humain, un potentiel positif. Eh bien, comme Nietzsche avait tué Dieu dans son Gai Savoir en disant que Dieu est mort, donc il fallait remettre l'humain au centre du débat, on a parlé d'une psychologie humaniste en rappelant qu'on avait du potentiel positif à exprimer. Et là est née toute cette psychologie humaniste avec Abraham Maslow, Carl Rogers, et ça a donné lieu à ce qu'on a appelé le développement personnel. Et c'est là que j'en viens à dire qu'il y a peut-être un danger du psychologique pour le psychologique, parce que à force de s'intéresser à comment la personnalité se construit et comment le moi, ce moi qui dit je le disais, cet ego fonctionne, eh bien, on peut, dans ce développement personnel, devenir très égocentré, voire très égocentrique, très narcissique, très individualiste, d'autant plus dans une société qui valorise l'individu et qui finalement nous sépare les uns les autres, parce que chacun en sauve notre petite peau. Et ça, c'est le grand danger, je pense, de tout ce courant psychologique pour la psychologie, avec l'idée de mieux fonctionner, d'être plus performant, donc plus productif, donc mieux consommant. Bref, c'est toute l'idéologie de notre civilisation qui, en tout cas, c'est ma vision, on a l'impression qu'elle arrive au bout. Elle s'essouffle et qu'elle voit l'absurdité de cette façon de se penser et de penser le monde. On voit les catastrophes que ça crée, les crises que ça crée, et on sent bien que ça va devoir changer. Et à côté de ça, on a la spiritualité qui, elle, dit, mais non, mais il y a la conscience en nous, l'esprit, le vrai esprit, hein, pas le mental, pas le mind. Hein. En français, on confond souvent le mind, le mental avec l'esprit. Hein. On dit médecine corps-esprit. Non, c'est une médecine corps-mental. Body-mind en anglais. Mais malheureusement, en français, on galvaude le mot esprit pour parler du mental. Mais parce que l'esprit, comme je l'entends ici, c'est vraiment la conscience hein, qui s'éveille en nous, qui n'est pas personnelle. Elle est partagée par tous, cette conscience. Et du coup, elle vient nous montrer quelque chose, elle nous fait voir la réalité telle qu'elle est. Et certains êtres peuvent être très, très inspirés et peuvent devenir des guides même spirituels sur ce chemin d'éveil de la conscience, d'éveil de l'esprit. Mais le drame, c'est que si ils n'ont pas regardé leur part de personnalité, et parfois, ils laissent leur personnalité s'emparer de ce discours pour se nourrir, pour nourrir leur ego. Et alors, on a des dérives dans certains mouvements spirituels qui sont très dommageables. C'est pour ça que je dis qu'il y a un danger et qu'il ne devrait pas y avoir de démarche spirituelle sans un éclairage psychologique des êtres qui vivent leur spiritualité. De la même manière qu'il ne faudrait pas avoir, il ne devrait pas y avoir, de mon point de vue, une démarche psychologique sans un éclairage spirituel, parce que sans ça, le moi, la personnalité qu'on apprend à connaître avec la psychologie, eh bien, elle se sert elle-même, elle devient de plus en plus narcissique, égocentrique, alors que la spiritualité nous invite de mettre ce moi au service de plus grand que nous qui est en nous, au service de cette vie, au service de cette unité, au service de là, la conscience peut nous montrer de ce qu'est vraiment le monde. Voilà pourquoi, pour moi, les deux sont absolument indissociables.
Alors, comment voir clair sur ses propres névroses psychologiques, Thierry?
La première étape, je pense, et c'est ce que j'ai voulu faire dans la posture juste, et c'est comme ça que je l'enseigne, parce que à l'école de la présence thérapeutique, qui va être rebaptisée dans les semaines qui viennent école de la posture juste, après 7 ans d'existence, l'école va changer de nom, parce que présence thérapeutique, c'était très relié au monde des soignants, mais l'école s'ouvre à tous maintenant, et c'est beaucoup plus juste de parler de l'école de la posture juste, du coup, cette posture juste amène une présence thérapeutique, amène une posture de guérison qui se met au service de la vie qui est en nous et autour de nous. Mais en attendant, dans le livre La posture juste et dans l'enseignement, dans l'école, j'insiste sur cette conjonction à la fois de l'analyse psychologique, mais à travers le corps, comme Reich, Lowen, Pierakos nous ont appris à le faire, mais aussi pour pouvoir vraiment voir, s'éveiller à cette réalité du psychologique dans le corps, du psychocorporel, il faut une conscience éveillée en nous, donc il faut une pratique contemplative. Et j'insiste beaucoup pour qu'on cultive une pratique contemplative, une pratique méditative. Mais je sais aussi que pour beaucoup de gens, c'est très angoissant, voire rébarbatif d'aller sur cette voie. Et du coup, je propose d'y aller d'une façon très douce mais efficace. C'est-à-dire de ne pas forcément se mettre une demi-heure en méditation tous les jours, tous les matins ou tous les soirs, mais progressivement d'apprendre à, comme je l'appelle, plonger dans le silence intérieur. Et la petite méditation que j'enseigne, j'ai appris par la suite, je ne le savais pas, c'est quelque chose qui a émergé dans mon chemin comme ça, mais j'ai appris et ça m'a vraiment réconforté ou conforté plutôt que c'était vraiment la base du tantrisme shivaïte du Cachemire, une des plus vieilles traditions contemplatives, mais dans le tantra, c'est-à-dire énergie de la conscience, conscience de l'énergie qui passe par le corps. Hein. Le tantra ne fait pas le, c'est une série de, ne fait pas l'économie du corps, c'est une série d'exercices contemplatifs et physiques. Hein. Qui a donné naissance au yoga, au qigong, et qui explique sans doute que l'Orient, dans ses démarches spirituelles, n'a jamais évacué le corps, alors que l'Occident est rentré dans de l'intellectuel, en niant, voire en diabolisant le corps. Mais en attendant, dans cette plongée dans le silence intérieur, il y a un élément très, très important, qui est d'essayer d'y retourner régulièrement au cours de la journée, plutôt que de s'astreindre à des longues, longues périodes de méditation ou ces séances de méditation, et de le faire de manière incarnée, c'est-à-dire en ouvrant le cœur, mais l'ouvrir vraiment physiquement, détendre la poitrine, ressentir cet apaisement et cette acceptation, cet accueil, parce qu'on a un espace intérieur qui s'est ouvert. Et ça, c'est d'une efficacité incroyable. J'en ai pour preuve maintenant, non seulement bien sûr l'expérience que nous avons à l'école, mais pendant le premier confinement de la crise de la COVID-19, j'ai instauré des méditations quotidiennes sur Facebook pendant 45 jours. Et j'ai enseigné, j'espère, avec une pédagogie, enfin je suis sûr qu'il y a eu une vraie pédagogie parce que j'ai vu les gens faire le chemin, mais j'ai vraiment enseigné ces étapes qui sont simples. Mais pour aller dans ce silence intérieur. Et quand je vois les témoignages, ils sont sur le Facebook, il suffit de les lire, c'est magnifique de se dire que des gens qui n'avaient jamais médité, en quelques séances comme ça, ont compris qu'il y avait un chemin pour retourner à l'essence, à l'essentiel, à notre vraie nature, qui est pur silence, pure paix, pur amour, pure conscience, pure capacité d'accueillir le monde, pure présence au monde. Et donc c'est la première étape. On ne peut pas espérer voir ses névroses, on ne peut pas espérer voir comment fonctionne notre personnalité et les pièges dans lesquels elle tombe s'il n'y a pas cet espace de conscience pour accueillir tout ça. Et ce n'est pas l'étape la plus simple parce que ça nécessite une vraie ouverture du cœur qui peut être facilitée par cette énergie, cet exercice tantrique hein, d'étendre le corps, de détendre la poitrine, d'ouvrir le cœur, mais aussi d'arrêter de se juger, d'arrêter de se juger, ça se passe quand le mental s'apaise et ça se produit quand ce corps commence à se détendre très fort. Mais je vois bien les élèves à l'école, la première année, même, ils ont parfois des longs parcours. Certains sont psychanalystes, psychiatres, psychothérapeutes, médecins, soignants, thérapeutes de médecine alternative. Enfin, il y en a de tous horizons. Mais maintenant, on a d'autres acteurs de la société, pas que simplement dans le soin. Mais ils sont dans un tel jugement sur eux-mêmes. Une telle volonté de coller à une image idéalisée. Et du coup, ils ne peuvent pas accepter de regarder toute cette névrose. Alors que quand le cœur s'ouvre, on l'accepte et on peut même en rire. Non pas s'en moquer, mais en rire, parce que quand on constate avec amour, surgit l'humour.
Merci beaucoup Thierry Janssen pour ces précieux échanges. Alors, moi, je reste. Compte tenu de votre pratique, vous êtes occidental, vous êtes inspiré beaucoup des pratiques orientales hein, pour évoluer vous-même dans votre spiritualité. C'est ça? Est-ce qu'il y a des pratiques occidentales, je veux dire par exemple dans le sport, qui permettent, dans les pratiques sportives, de se connecter, de se regarder, de se relier à soi?
Vous savez, tout est dans tout, mais ça dépend comment on le regarde et comment on le vit. Ce que je veux dire par là, c'est que d'abord, moi, je n'ai pas été beaucoup du côté de l'Orient pour faire mon chemin spirituel. Personnellement, je n'ai pas de religion, je n'appartiens à aucun groupement. Je suis né dans une famille catholique, mais très tôt, j'ai décidé que cette religion était trop incohérente dans ses actions par rapport à son discours pour que je continue à me limiter à ce qu'elle me proposait. Et donc, bien sûr, je me suis intéressé à d'autres courants religieux, et puis je me suis rendu compte que tout s'était nourri de ce que j'appelle la spiritualité, donc l'éveil de l'esprit, l'éveil de la conscience, et que c'était ça finalement qui était important. Mais ça s'est fait naturellement, et j'ai eu l'occasion de raconter ça dans Confidence d'un homme en quête de cohérence, ou bien dans Écouter le silence à l'intérieur. Ça s'est fait naturellement, et souvent je me suis dit, mais t'as pas eu de maître, tu n'es pas inscrit dans une lignée, dans une tradition, quelle est la valeur ou la légitimité de tout ça? Et en fait, excusez-moi l'expression, mais bullshit. La légitimité de tout ça, c'est le parcours. Et le parcours, il est, j'espère, humble, c'est-à-dire, je me suis trompé, je me suis fait mal, j'ai eu des crises, j'en aurai encore. Et c'est pas grave, c'est ça être vivant, c'est ça embrasser la vie, et c'est de la vivre en conscience. Et j'essaye d'ouvrir mon cœur pour m'accueillir, pour accueillir les autres, et je vois bien que c'est ça qui a changé profondément mon existence et ma manière d'être au monde. Donc pour l'instant, je m'en tiens à ça. Maintenant, quand vous dites, est-ce qu'on peut trouver, puisque c'est vrai que je l'ai dit un instant, le tantra, cette très vieille tradition millénaire qui a inspiré le védisme, l'hindouisme, le bouddhisme et de là toutes les approches spirituelles de l'Orient, le tantra a permis qu'on garde le corps au centre de la démarche. Et en Occident, le corps a été banni de la démarche spirituelle, mais quelque part, il a été revalorisé à travers la performance précisément sportive. Et du coup, on a fait des Jeux olympiques. On s'est battu d'une cité à l'autre, parce que tout ça date de la Grèce ancienne, hein. C'est quand tout d'un coup, les philosophes nous ont dit que nous n'étions pas dans la nature, nous étions en dehors de la nature, et que nous avions une supériorité par rapport à elle, et que donc nous devions la dominer et la contrôler en la comprenant, bien sûr. Et ça a donné toute l'analyse occidentale, et nous voyons aujourd'hui la limite de ce système, puisqu'à force de vouloir analyser la nature, on l'a coupée en petits morceaux. On ne comprend plus son fonctionnement dans ses interactions, dans sa globalité, et nous sommes toujours en train de penser que nous sommes en dehors, et donc on se permet de faire n'importe quoi à la nature en croyant que ça n'aura pas de répercussions sur nous. Mais on se leurre totalement, puisque nous sommes la nature, nous sommes une émanation de la nature. Et tout ça pour dire que l'Occident, très influencé par cette pensée grecque, et ces Jeux olympiques, on se battait d'une citer à l'autre en s'affrontant dans une performance sportive, qui était une façon de se faire la guerre quelque part, mais sur un, d'une façon plus pacifique, hein, plus ludique. Mais ça n'a rien à voir. Tant qu'on reste à faire du sport pour la performance, pour se prouver à soi ou prouver aux autres qu'on est bon, qu'on est meilleur, qu'on a gagné quelque chose, qu'on a fait quelque chose, qu'on a prouvé quelque chose, on ne pourra jamais faire le chemin. C'est pas comme ça qu'on est présent à soi. Et il suffit de voir les sportifs, pas tous, mais quand même dans la compétition, comme ils s'abîment, comme ils abîment leur corps, comme ils ne les respectent pas, comme ils sont usés avant l'âge. Alors oui, toute voie peut mener à ce que nous décrivons là, cette spiritualité, cette présence à l'être, cette révélation de l'être, toute voie, mais ça dépend comment on la vit. Si je suis dans une salle de sport et que j'observe les gens, j'en vois avec des écouteurs sur les oreilles qui écoutent leur musique favorite, tout en pédalant sur un vélo et en regardant un écran de télévision qui diffuse les nouvelles des morts du Covid. Ça, c'était du temps où les salles étaient encore ouvertes. Mais du coup, comment voulez-vous être présent à vous-même quand vous faites ça? Ah oui, alors vous êtes présent à vous-même parce que vous avez mal au mollet, ça vous fait mal aux cuisses, et vous êtes content. Parce que si ça fait mal, c'est que mes muscles vont se développer. Et... Non, c'est pas comme ça qu'on y arrive. Par contre, vous avez des gens qui se mettent sur ce vélo, qui n'ont pas les écouteurs, qui ne regardent pas la télévision, qui baissent les paupières et qui écoutent leur corps pendant qu'ils travaillent. Et alors, tout très vite, quand ça fait mal, ils vont peut-être pas forcer. Ils vont y aller d'une toute autre manière. Et ils n'auront pas de moins bons résultats. Et sur le long terme, ils auront des résultats beaucoup plus complets, non seulement sur leur aspect physique, mais sur leur vie émotionnelle et leur vie intellectuelle, donc leur vie de l'être totalement relié et réconcilié, leur vie spirituelle. Voilà, donc il n'y a pas une pratique qui est meilleure qu'une autre, ça dépend comment on la vit. Vous avez des gens qui font du yoga juste pour la performance. C'est pas mieux. Il fut un moment où on a compté plus de professeurs de yoga en Californie que dans toute l'Inde réunie. Mais on s'est rendu compte qu'une grande partie de ces professeurs de yoga étaient des professeurs de gym et qui nous apprenaient à faire des postures un peu spectaculaires qui nous donnaient l'illusion d'avoir atteint le niveau des yogis. Mais le yoga, c'est pas ça. Et donc, je ne dis pas que tous les yogins et tous les gens qui pratiquent le yoga sont dans cette dynamique, mais il faut y faire très attention. Et c'est précisément, ça ne tient pas longtemps, hein, parce qu'on finit par se faire très mal. Si on veut vraiment aller dans une pratique profonde du yoga, dans la performance, on va se faire très mal. Et donc, c'est toute une attitude au monde qui va changer, et qu'on soit un coureur de fond, un haltérophile ou un praticien du Qigong n'a plus aucune importance. C'est qui est-on pendant qu'on le fait, comment fait-on ça? Avec quelle présence, avec quelle conscience?
Merci beaucoup Thierry Johnson, c'était génial. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci vraiment beaucoup.
Voilà, mais j'espère que ça ira pour l'histoire du placebo, là, au début.
Mais on n'a pas fini Thierry.
Ah, pardon! D'accord.
Alors Thierry Johnson, je rappelle le titre de votre livre pour ceux qui nous écoutent, La posture juste, comment inventer un monde en harmonie avec soi, les autres et la nature, chez l'Iconoclaste.
Oui.
Alors Thierry, j'ai cru comprendre que vous étiez sur d'autres projets en même temps d'ouvrages, d'écriture ou pas?
Non. En fait, vous savez, j'ai mon premier livre, je l'ai écrit en l'an 2000, il est paru en 2001. On est en 2000, on va arriver en 2021. En fait, j'ai écrit 9 livres en 20 ans. C'est bien. Ça fait un tous les 2 ans pratiquement. Il y a eu un trou de 6 ans parce que j'ai fait une longue traversée que j'appelle nuit noire de l'âme avant de m'incarner plus, parce que les livres peuvent être une façon de rester non incarné. On pense les choses, on les exprime, on ne les vit pas forcément. Déjà en 2009, j'avais eu une première prise de conscience par rapport à ça, puisque après avoir écrit La maladie est-elle un sens, je suis moi. même tombé malade, j'ai été paralysé, et ça venait clairement d'un épuisement parce que je n'avais pas écouté mon corps. Et du coup, ben, il y avait une question à répondre qui était précisément celle du livre que j'avais écrit, et j'avais donné plus de 200 conférences dans 8 ou 9 pays en un an, c'était de la folie. Et donc, j'ai décidé à ce moment-là d'incarner beaucoup plus le message que j'essayais de transmettre. Et je n'ai plus autant voyagé. Et puis, par la suite, bon, j'ai écrit Confidences d'un homme en quête de cohérence pour vraiment discuter cette question de la cohérence. Et cohérent par rapport à quoi? Par rapport à l'ego névrotique ou par rapport à l'essence de l'être, à l'esprit, à la conscience qui nous insuffle à la sagesse. Et ensuite, il y a eu une autre crise parce que j'ai entendu en fond de moi que ça serait bien que je puisse transmettre ça sous forme d'un enseignement, dans une forme d'école, ce qui me permettrait de moins voyager aussi et puis d'ancrer les choses. Mais je ne me sentais pas tout à fait légitime. J'ai voulu écrire avant d'ouvrir l'école et je n'y arrivais pas. Et ça a donné lieu à cette nuit noire de l'âme parce que le mental voulait s'emparer de tout ça. Et finalement, j'ai lâché prise. Ça m'a appris beaucoup. J'espère, parce que personne n'est à l'abri d'une rechute dans la névrose et donc dans les crises qui peuvent surgir de là. Mais au jour d'aujourd'hui, écrire pour moi n'est plus du tout une nécessité. Si j'ai écrit la posture juste, c'est parce que je voulais que les élèves de l'école aient l'enseignement posé quelque part. Je voulais aussi le partager avec un plus grand nombre parce que j'étais conscient que tout le monde ne pouvait pas forcément rejoindre une école comme l'école de la posture juste. Mais en même temps, je me rends compte que entre ce qu'on lit et ce qu'on vit, il y a un chemin. Donc, c'est parfois bien de venir quand même dans ce genre d'école pour faire ce chemin. Mais si déjà le livre peut ouvrir à cette perspective, c'est formidable. Et après, je ne sais pas s'il y aura même d'autres livres. Ce n'est pas tout à fait vrai et honnête de dire ça parce que je porte en moi un livre qui veut depuis de nombreuses années sortir, mais il n'y a pas encore la place et la disponibilité pour se mettre à son service, pour le laisser s'accoucher. Mais c'est un livre qui parlerait de l'Égypte ancienne, de ce qu'elle m'a apporté, de ce qu'elle peut apporter au monde aujourd'hui, à travers l'immense sagesse qui l'a construite pendant 3000 ans. Et donc, voilà, j'espère avoir un jour la disponibilité, l'énergie, l'inspiration, mais ça sera le jour où ça sera. Vous voyez, je ne suis pas un producteur de livres. Ils viennent quand ils viennent. On m'a demandé beaucoup de livres sur commande. On m'a demandé de traiter de plein de sujets sur le lien entre le corps et la pensée, sur la méditation, sur la spiritualité. Non, moi j'écris les livres que je porte. Et je ne peux pas écrire un livre sur commande. Je ne peux pas écrire un livre sous prétexte que je dois absolument occuper une scène médiatique ou les étals des libraires. Je n'ai pas l'ambition de devenir monsieur ceci ou monsieur cela. Ça fait partie de mon chemin, les livres. Quand ils sont là, ils sont là. S'ils ne sont pas là, je ne me forcerai pas.
Merci Thierry. Pour finir, votre mantra.
J'ouvre, j'ouvre, j'ouvre le cœur. Et j'écoute le silence à l'intérieur.
J'ouvre, j'ouvre, j'ouvre le cœur et j'écoute le silence à l'intérieur. Merci beaucoup Thierry.
Merci à vous, hein.
Eh bien, merci à tous pour votre écoute et votre fidélité. J'espère que ce contenu vous a été utile. Je vous rappelle le titre du livre de Thierry Jensen, La posture juste, comment inventer un monde en harmonie avec soi, les autres et la nature, paru aux éditions L'Iconoclaste. Si ce podcast vous a plu, faites-le nous savoir. Je vous donne rendez-vous sur bloomingyou.fr où vous trouverez la retranscription écrite de cette interview avec toutes les références. De mon côté, je vous dis à très vite pour de nouvelles rencontres et découvertes. Et en attendant, je vous souhaite tout le meilleur. À bientôt!